Bonjour, vous êtes sur Bien Vu. Chaque semaine, Nicolas Bonzon et Jean Pat se baladent sur toutes les plateformes pour vous recommander des programmes. Pensez à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Place maintenant aux recommandations de la semaine. Salut à tous, c'est Jean Pat. Salut Nicolas Bonzon.
Bonjour.
Alors, le mot a été un peu coupé. Tu nous as dit...
J'ai dit bonjour.
Voilà. Évite de boire en même temps que tu dis bonjour parce qu'on a entendu bonjour.
Ah, c'est pas vrai. Bah, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit.
Voilà, bonjour. C'est du vieux patois qui ne se trouve que dans le village de Nicolas où il recevait petit la télévision par satellite.
Et là, je suis en train de me rendre compte que le gars va garder ça
bien
et
entendu.
Qu'il ne va pas arrêter.
Mais non, parce que là, on est quand même.
Non, mais c'est bien, oui.
On est quand
oui.
même en juillet 2023 à annoncer les programmes que les gens doivent regarder en février 2024, c'est déjà un bel exploit de notre part, donc on ne va pas refaire les prix.
Non, bien sûr.
Alors mon bon Nicolas, au sommaire, cette semaine, j'ai décidé de vous proposer une spéciale Disney+, parce que je trouve que Disney+, a des programmes très connus de tout le monde et des petites productions originales qui passent un petit peu inaperçues. Donc je vais vous parler cette semaine d'un documentaire, pas de deux, mais un documentaire qui s'appelle Lambert contre Lambert, une série qui s'appelle Oussekine, tirée du drame qui est arrivé au pauvre Malik Oussekine dans les années 80, tué par la police, monsieur. Et enfin, une série toute neuve, avec entre autres Virginie Efira, qui s'appelle Tout va bien. Vous allez voir que ça va être très joyeux. Une série qui a fait des crises de tachycardie à ma pauvre épouse, mais qui est une série à voir, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le catalogue. Je ne suis pas pervers au point de vous recommander des choses que je n'apprécie pas au final, même si certaines sont difficiles à regarder. Toi, tu vas nous parler de ce que tu as vu et dont on avait parlé dans le premier épisode, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne, Raël, le prophète des extraterrestres, que j'ai moi-même vu. Donc, on va pouvoir en débattre. Et puis, tu nous recommandes un documentaire sur France TV. Pour une fois, ce n'est pas moi qui choisis les programmes de France TV.
Tu vois.
C'est Hiver 54. L'abbé Pierre et l'insurrection de la bonté. Tu nous recommandes également de voir, et c'est ce lundi 19 février, sur M6, L'école a remonté le temps. Et puis, on aura des petits bonus tracks. Je vais vous parler de The Offer, qui est une série sur Paramount+, qui est un bijou de série. En ce moment, on a vraiment beaucoup de chance. Il y a des choses vraiment très originales et dingues qui allient un peu les passions que je peux avoir sur l'histoire, sur le documentaire et sur la fiction. Ça s'appelle The Offer. Et toi, tu nous parleras aussi de quelque chose qui est culte et principalement auprès de la communauté des internets et qui ensuite a été poussé à la télé, en l'occurrence sur France TV, qui est Hirocorp.
Exact.
On va démarrer tout de suite avec... on va un peu alterner parce que sinon, ça va pas être très, très glorieux et très joyeux
très
tout le temps.
Très gai,
très gai, voilà. donc, le spécial Disney+, il commence avec Lambert contre Lambert, au nom de Vincent. C'est fait en série, je ne sais plus le nombre d'épisodes, c'est une série documentaire réalisée. Alors, tu sais, c'est comme quand tu prêtes serment, quand tu vas dans les commissions à l'Assemblée nationale. S'il y a des conflits d'intérêts, il faut les donner tout de suite.
Oui.
Bon, je vous mets à l'aise tout de suite. C'est une amie, une ancienne collègue qui s'appelle Élodie Buzel, associée à Vincent Trisolini, qui ont créé et réalisé cette docu-série qui a été produite l'an dernier et qui raconte le combat de la famille Lambert contre Lambert. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est le droit à la fin de vie ou pas. C'est pour ça que je vais aller très vite là-dessus parce que je ne suis pas là pour vous donner des trucs. Ce que j'ai trouvé de brillant dans cette il l'appelle une docu-série, c'est que on arrive à aborder des sujets très lourds et très graves. Je vais vous lire le pitch. En gros, le 11 juillet 2019, Vincent Lambert meurt au CHU de Reims. C'est l'épilogue de plus de 10 années d'une saga familiale, médicale, judiciaire, politique et médiatique, faite d'un vraisemblable rebondissement jusqu'à la veille de son décès. Comment la question de la vie de ce jeune homme va-t-elle bousculer le rapport à la vie et à la mort de toute la société française ? Il a déclenché plein de commissions de loi, de réflexion. Il y a plein de rebondissements. Il y a eu des tristes rebondissements. En gros, son épouse, au bout de nombreuses années, il était dans un coma artificiel tenu par des machines. Et les médecins étaient d'accord avec l'épouse et il fallait arrêter cela. La famille très croyante, très catholique, catholique intégriste, n'était pas de cet avis. Et au milieu de ça, il y avait cet homme qui était dans son lit, sans la capacité de s'exprimer pleinement. Et ce combat, il a été mis en image dans une docu-série que je vous recommande. Alors, ce n'est pas pour vous péter l'ambiance en plein mois de février. C'est simplement que je pense que quand on ne va pas bien, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Il faut affronter les choses. Et les prises d'expérience et les moments de vie de certains vous enrichissent d'une manière ou d'une autre. Ah. Et Lambert contre Lambert, au nom de Vincent, fait partie de ces documentaires qui méritent d'être vus. Et même dans la réalisation, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, mais comme d'habitude, je digresse. Tout ça est fait avec respect, courtoisie, élégance. C'est, les vrais témoins sont là. Hein. Certains ont refusé de témoigner, mais la plupart des acteurs de cette triste situation témoignent. Il y a énormément d'archives et au milieu, les séquences d'illustration ont été faites. Je vous laisse découvrir, mais ouais. Avec c'est difficile peut-être à comprendre, mais c'est beau, c'est joli. Il y a une neutralité dans l'illustration, mais il y a une force dans l'image qui fait qu'à un moment donné, eh ben, on se pose les bonnes questions. J'ai pas d'avis là-dessus, hein. J'ai pas d'opinion. Ce que je sais, c'est que c'est quelque chose de très fort. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Le mec, il a pété l'ambiance.
Oh putain, il est vraiment incroyable. Ça, on garde aussi. Ça, on le, tu le gardes, ça.
Et je pense à ma tante, le mec, il pète l'ambiance.
Et ça, tu le gardes, voilà. S'il te plaît. Voilà,
et
merci.
Je le garde. Et donc, voilà un des premiers conseils de la spéciale Disney. Vous allez voir qu'il y en a d'autres. C'est pas beaucoup plus joyeux, mais c'est des sujets sociétaux. Et pour venir à quelque chose de pas du tout joyeux, mais cette bande de branquignoles, comme ça je spoil mon point de vue.
Ah.
Tu as vu Raël.
Oui, j'ai vu Raël.
Et, Olim,
et il va très
Elohim,
bien.
Elohim. Je le fais bien. Hein.
Ouais, non, mais franchement, c'est ça aussi, on le garde. Hein.
Ah,
ça,
oui,
on le garde.
C'est une dinguerie.
Raël, le prophète des extraterrestres.
Ouais.
Déjà, on vous prévient tout de suite. Très bon documentaire. Je crois qu'il faut se dire la vérité. Mais j'ai des reproches à lui faire. J'ai des reproches à lui faire. Juste pour ceux qui ne connaissent pas Raël, c'est un gourou à l'origine du mouvement raélien. Il est persuadé un jour d'avoir été contacté par les extraterrestres.
Claude Vorillon.
Claude
Vorillon. Appelons un chat, ce mec s'appelle Claude Vorillon. On va arrêter.
Exactement,
on va péter le
exactement.
Tout de suite.
Exactement. C'est un Français. Il a fait le tour du monde, mais il est Français.
Oui, madame.
Il fait encore le tour du monde.
Oui, madame.
Et c'est ce qu'on découvre d'ailleurs dans le documentaire. Et les extraterrestres lui ont dit. Ouais. Vous avez été créé, vous humains, par
absolument.
Les extraterrestres. Et c'est l'origine du mouvement qui va lancer, pour ne pas dire une secte.
Si, si.
Et le documentaire, le documentaire raconte l'ascension immense de ce mec. Et surtout, au départ, on comprend tout de suite que c'est la télévision qui a fait ce mec.
Mais c'est ça
c'est-à-dire
le drame.
C'est-à-dire que sans Jacques Chancel,
ouais.
Sans Ardisson et Christophe de Chavannes,
ouais.
qui d'ailleurs a beaucoup de recul parce qu'il témoigne dans le documentaire,
il témoigne.
Il n'y a pas de Raël, clairement. Hein.
Et
d'ailleurs,
et la télé suisse, et la télé canadienne.
Et la télé suisse, quand, évidemment, et canadienne quand il est parti au
et
Canada.
Le et le Sénat américain.
Il y a d'ailleurs un Raélien, Jean-Pat, qui à un moment dit une phrase que j'ai trouvée géniale, je l'ai notée, il dit « La différence entre Raël et Jésus, c'est que Raël, lui, il avait la télé. »
Exactement.
Ce qui est juste un truc fou.
Et c'est raciste parce que Jésus ne l'avait pas, parce qu'il n'y avait pas encore l'électricité. Ils auraient parlé avec Maître Gims à quelques mètres, ils auraient eu la télé, quoi.
Alors en vrac, et après je te laisse parler,
oui.
On découvre son rapport avec les femmes, qui est plus que problématique, on découvre son incroyable histoire de clonage humain, pour moi c'est le meilleur épisode,
c'est
il est juste incroyable.
C'est le meilleur prank de l'histoire de l'humanité.
Ah non, c'est fou, on découvre l'argent qu'il a amassé, que son mouvement, ce que je veux pas de procès, a amassé pendant des décennies pour construire une ambassade pour accueillir les extraterrestres.
C'est important de faire des ambassades.
Pour moi, incroyable film. Je me suis régalé.
Ouais.
Très bien monté.
Oui.
Mais j'ai des reproches à lui faire. Je te laisse la parole, mais avant, juste mon reproche, c'est quoi ? C'est que je trouve que ça manque de recul.
Totalement.
C'est-à-dire qu'en fait, Raël est interrogé, mais pour moi, il est interrogé sur des choses qui ne sont pas intéressantes. Et tout ce qui est intéressant, tout ce qui est problématique, on ne donne pas le met pas en contradiction avec ça.
Ouais.
Et ça, ça pose un réel problème.
Bien sûr.
Parce que, en fait, le documentaire est fini. Et le gars passe pour un mec génial. qu'il est sans doute, peu importe, je le connais pas, mais en tout cas on le confronte pas,
on le confronte pas
à la réalité.
Les ordures qui sont géniaux, bah, c'est le principe même d'une ordure. S'il n'est pas génial, il peut pas devenir une ordure. On peut dire la même chose d'Elon Musk, bonjour le procès, on peut dire la même chose de plein de gens, et chacun dans leur catégorie, c'est pour ça que je mélange pas tout, mais à un moment donné, Claude Vorillon, c'est un mec qui rate sa carrière dans la chanson, c'est un mec qui rate sa carrière dans l'automobile, qui rate sa carrière dans le journalisme, et puis d'un seul coup, il a... Moi, je te dis mon ressenti en tant que téléspectateur.
Ouais, oui, bien sûr.
Il a structuré sa pensée, et effectivement, il est tombé au moment où, et ça, t'as pas connu, moi, je l'ai à peine connu, mais je l'ai connu, le moment où cette idée que des extraterrestres potentiellement existaient et existeraient, je vous recommande d'ailleurs aussi la série OVNI sur Canal+, parce que ça a un rapport. Parce qu'en fait, vraiment, moi, j'ai connu ça petit, mais je l'ai connu, c'est-à-dire... Et Jean-Claude Bourret qui présentait le journal de 20h, il éditait des bouquins qui se vendaient à des milliers d'exemplaires et toute une ribambelle. Et c'est pour rejoindre ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils étaient reçus. Putain, le grand échiquier, c'est pas rien, c'est pas Hanouna, quoi. C'est le grand échiquier. Et le mec, il allait, et l'autre, il dit, bon, bah, on a le droit de douter, mais on croit en votre parole. Est-ce que vous pensez vraiment que je viendrai à la télévision pour dire ça? Bah oui, connard, c'est le principe. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas un mec pour lui dire ça. Je me souvenais parfaitement de l'incident chez De Chavannes. Ouais. J'avais oublié les raisons dégueulasses de la venue du père. Parce qu'il faut dire les choses, en fait, quand même. Le mec libère la pédophilie. Non, mais vraiment, très sérieusement. C'est ça que ça a donné, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, avec tout le respect que je peux avoir, aucun, pour les Raéliens, parce que c'est des gens brillants, etc., tu vois, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme dirait l'autre, il y a un os dans le boudin. Le mec qui demande 11% de tes revenus, non, pardon, 10% pour construire l'ambassade et 1% pour que ce bon Raël puisse vivre. Et puis, dans le quart d'heure d'après, quand t'as fait ta cotise avec ton salaire de merde, dont t'as donné 11%, tu vois que le mec, il voyage en jet. Ouais, mais c'est quand même le représentant, ok. Donc tout ça, moi, je le dis parce que moi, en plus, j'ai eu des proches qui ont été victimes d'autres sectes, d'autres églises foireuses comme les Témoins de Jéhovah, etc. Pardon pour ceux qui y croient, mais moi, j'ai perdu une tante qui est morte pour les croyances de Jéhovah et des choses comme ça. Donc moi, j'ai de culture une religion, etc. Mais à un moment donné, c'est des choses qui posent problème. Mais Raël, exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on ne creuse pas dans les trucs qui font vraiment mal. Que Raël intervienne réellement, complètement, seulement dans le dernier épisode, m'a posé problème.
Bien sûr.
Parce que ça faisait un peu teaser à l'américaine. À chaque début, milieu ou fin d'épisode, on nous montre qu'il sera là et il n'est pas là.
Et en fait, il n'est pas là.
Et à la fin, il n'est pas là. Il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Il n'y a pas de contradictoire. Et pire, parce que je comprends, je suis producteur. Tu ne fais pas de contradictoire pour être sûr que le mec, il signe le truc. Ok.
Oui, mais non.
Tu fais du contradictoire au montage, à la post-prod, derrière. Une fois que tu as capté le témoignage, tu fais comme complément d'enquête et toutes les émissions d'investigation. D'ailleurs, tu te mets d'accord, oui, alors on n'abordera pas ça, d'accord, tu veux pas, ok.
Ah oui, mais Jean-Pat, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'en réalité, quand tu fais un documentaire comme ça, ou pendant trois épisodes...
Tu l'aurais pas eu, Claude Vorillon, sinon.
Oui, mais tu ne lui dis pas, c'est pas un problème, ça, c'est-à-dire que pendant trois... En fait,
t'as une scène de début et t'as un milieu où tu lui mets les trucs dans la gueule, et puis fin de record, fin d'histoire.
Et oui, mais... c'est pas grave en fait, parce qu'en fait c'est justement ça qui me pose problème, parce que tu as trois épisodes où franchement ils font quand même leur boulot sur le mouvement raélien, puisqu'en fait ils disent les trucs qui posent problème, qui posent gravement problème. En revanche, dès que tu as Raël qui est posé face à une caméra, il ne parle que de banalité. Il n'y a aucun moment on ne dit à Raël l'argent, où il est, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi il sert, les femmes, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, ou j'ai noté d'autres trucs, le clonage humain.
Oui, c'est vrai.
Là, je crois qu'il en parle un tout petit peu. Pareil avec le docteur Brigitte Boisselier.
Il dit clairement que c'était une grosse connerie.
Oui, alors lui, oui. Ouais. Mais Brigitte Boisselier, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas,
oh, quelle gogole.
Mais
elle a géré son business. Hein. Moi, mon analyse, c'est que cette nanana, elle s'est dit, ma vie est foutue pour foutue, autant continuer à toucher du pognon et à continuer à raconter des histoires. Tristement, il y en a plein des gens comme ça. Hein.
Journalistiquement, le problème, c'est que le journaliste, on ne va pas vous révéler, mais en fait, le journaliste lui pose la question en disant « Ce bébé, comment il va ?» Et en fait, elle répond « Ben oui, il va très bien, je n'ai pas trop de nouvelles. Ce bébé, il n'existe pas.
Ouais, il n'existe
Pourquoi
pas.
Le journaliste derrière lui dit pas « Madame, ce bébé, il n'existe pas. » Quitte à ce qu'on entende de la voix du journaliste et qu'après, la meuf enlève son micro et dit « Fin
sûr.
De l'interview. » Mais en fait, ça, ça manque. Et le documentaire n'est pas terminé pour moi.
Alors, c'est plus compliqué, si je peux me permettre, et peut-être que j'ai tort. Alors, tu as raison dans ce qu'il aurait fallu faire. Mais très souvent, quand tu fais des trucs comme ça, elle peut te signer l'autorisation a posteriori. Et donc, tu n'as rien du tout. Tu vois
Alors, il ne faut pas faire de documentaire. C'est un sujet aussi important.
Alors, je vais te dire un truc. En plus, c'est Netflix. Netflix, c'est des clauses américaines. Hein. C'est comme quand tu fais un doc pour Netflix. Tu n'en es plus jamais propriétaire. La notion de droit d'auteur n'existe pas. Alors, tu es très heureux, tu as produit pour Netflix, mais tu détiens plus aucun droit de ton œuvre. Et ça ne m'étonnerait pas que dans les clauses de ces trucs-là, il y ait ça. Et ce qui est malheureux, hein, je te rejoins, je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est totalement malheureux, mais je me demande si ce n'est pas ça qui a généré cette attitude un peu bizarre. Mais effectivement, on est carencé et il faudrait compléter le documentaire d'un cinquième épisode en disant voilà ce qui se passe. Parce que ce qui est drôle aussi, et c'est toi qui m'as alerté là-dessus, les Raéliens ont fait un communiqué de presse veille de la sortie pour annoncer.
Même pas la veille,
le jour même.
Je regarde ma série tranquille et je mate mes mails en même temps. Et là, je vois un mail que je reçois en tant que journaliste. Ouais. Le mouvement raélien lance sa série sans aucune référence à la série de Netflix. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu le coup en se disant « ça va peut-être nous pénaliser ». Donc, ils lancent leur série. J'ai cliqué dessus. En fait, c'est inintéressant.
Ouais,
c'est une série de prises de parole.
De vidéos caméscopes, de prises de parole.
Voilà, de prises de parole, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a rien d'une série et ça n'a rien de qualité. Mais c'est marrant de se dire qu'ils ont voulu profiter aussi sans
Absolument,
doute de cette célébrité soudaine pour lancer leur truc, pour relancer leur histoire. Quoi.
Ce qui est le plus triste dans cette histoire, le mec a 74 ans, donc vous imaginez à quel point il s'en bat la race, qu'il soit démasqué ou pas. Lui, comme on dit dans ces âges-là, sa vie est faite. Lui, sa fortune est faite. Lui, le dispatch du pognon dont on ne lui demande aucun compte, il est fait. L'ambassade, peut-être qu'elle sera faite de mon vivant, mais je doute, il met tout le monde à l'aise tout de suite, etc. C'est ça le truc, c'est que ce documentaire, il est très riche et très bien, et il faut le voir. Ne serait-ce que pour... Il y a de la dénonce, et puis il y a des anciens adeptes, et on ne dit jamais que c'est des anciens. Et c'est ça qui est sain dans le documentaire, c'est que tu entends leur discours. Le laborantin qui a monté le laboratoire.
Il est touchant.
Il m'a fait pleurer à la fin. Enfin, il a ruiné sa vie. Enfin, voilà. La journaliste canadienne, elle est incroyable. Enfin, il y a plein de témoignages incroyables. Et puis le gros lard, là, qui est toujours raélien et qui ne voit pas pourquoi. Ouais, mais de Chavanne, moi j'étais là, je sais que c'était organisé. Mais il n'y a rien d'organisé, mon gars. Vous publiez dans vos mags internes que c'est cool de toucher ces mômes. Ça ne va ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Et ça, il n'y a pas de contradictoire. C'est le grand écueil de cette série documentaire qui mériterait effectivement. Mais le problème, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est le plus gros effet. On ne sait même pas réellement combien ils sont. Tu vois ? On ne sait pas combien ils sont. Est-ce qu'ils sont
130
vraiment...
130 000, selon le dernier communiqué de presse que j'ai reçu.
Mais voilà, le communiqué de presse. Voilà, le communiqué de presse.
Oui, bien
tu
sûr.
Vois quand ils disaient qu'ils étaient 50 000, ça se trouve, ils étaient... voilà. Quand tu regardes, moi j'ai un peu gratté par curiosité, quand il organise des réunions, même ne serait-ce qu'au Japon ou ailleurs, puisqu'il est maintenant au Japon, il y a 500 personnes. Bon, tu vois, 500 personnes, on va rester calme. Mais le mal qu'il a fait, ne serait-ce qu'à ces 500 personnes, le mal dans le déroulé de la vie des gens, quoi. C'est ça qui est complètement fou. Et effectivement, ça manque de contradictoire. C'est dingue, parce que effectivement, moi-même qui ai connu ces périodes-là, j'ai été scié par l'ampleur des histoires. Le clonage humain, très honnêtement...
Incroyable épisode.
Non, mais j'avais
incroyable.
Oublié. Hein. J'avais oublié qu'il y avait eu les JT avec le mouvement raélien à cloner et tout. J'avais oublié, très honnêtement. Donc, quand tu vois la couverture médiatique, etc., et ça ne sert pas de leçon aux médias d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on continue à te dire « Oui, mais pourquoi pas les gens sont libres de penser. Oui, oui, bah oui, bah oui. Bah bien sûr. » Bah ouais, on peut toucher les enfants, bah pourquoi pas, peut-être que... mais non, les gars, allô oui, mais il a vu des extraterrestres. Ouais, mais il est chez père, le gars, ça se voit, le gars, qu'il est perché. Donc, et ça ne sert jamais de leçon. pour être un peu plus solennel, c'est ça, moi, qui me pose problème. C'est qu'à un moment donné, le folklore du documentaire, il est formidable, mais dedans, tu regardes tes confrères journalistes et tu dis, mais les gars, sans déconner, quoi. Aucune ironie quand vous faites les sujets, aucun recul. Chancel qui fait, oui, mais bien entendu, on entend très bien ce que vous dites, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Allez, on va écouter un sketch de Raymond DeVos. Non, mais les gars, hiérarchisés, putain. Donc voilà. Donc ça, c'était Raël.
Bon, il faut le voir malgré tout. Ce sera un immense succès pour Netflix.
Oui,
ça,
je pense. Et puis c'est au niveau international et tout, donc ça va être super. Mais je ne pense pas, c'est ce qui m'apaise, que ça va faire du recrutement chez les Raéliens. Mais le genre humain est tellement compliqué que peut-être je me trompe. Voilà pour Raël, on lui a assez donné de temps. On va parler de... On va alterner entre toi et moi, comme ça, toi, tu vas remettre un peu le moral. On va parler de la série... de Disney, puisque pour moi c'est un spécial Disney pour cette édition,
oui.
Qui s'appelle, la série s'appelle Oussekine d'après une histoire vraie, le titre est important, et donc ça retrace la terrible affaire de Malik Oussekine qui a été tué dans la nuit du 6 décembre 86 à Paris, frappé à mort par des policiers, par des brigades volantes de l'époque, de notre si adoré par tout un pan de la société. Charles Pasqua, il faut mettre des noms sur les choses. Cette série, elle est passée totalement inaperçue. Et comme je suis un peu un insider et que j'ai des amis qui s'occupent un peu des choses autour de Disney et tout, j'étais extrêmement étonné parce que là, depuis Malik Oussekine, il y a eu d'autres fictions qui ont été faites, qui ont été en primo-diffusion sur les plateformes payantes, que ce soit Netflix, Prime, et puis ensuite sur des France Télé ou des TF1. Et Oussekine, pour moi, c'était un truc indispensable. Oussekine est une série que l'ensemble des Français doivent voir parce qu'elle est construite, argumentée, elle est positionnée si on veut, enfin, elle est positionnée si on trouve que c'est normal de tabasser un gamin qui rentre dans un hall d'immeuble à 22 ans. Sinon, elle n'est pas positionnée, c'est juste le reflet de la réalité des faits. On montre tout ça et moi, je trouvais que c'était une œuvre indispensable pour l'ensemble du public français et qu'elle n'a pas été ma surprise. De savoir que c'était vraiment une exclusivité Disney, qu'ils ne sont pas prêts à la lâcher sur des chaînes françaises. Et je trouve ça très dommage. Donc je vous conseille, ne serait-ce que de vous abonner puis de vous désabonner, on connaît tous la magouille. Non, mais je plaisante. Regardez Oussekine Disney, le catalogue est tellement riche qu'on s'en mêle jamais, pour être très honnête. C'est la blague de s'abonner ou de se désabonner. Mais en tout cas, Oussekine, cette série est vraiment très bien. J'ose espérer qu'elle sera disponible vraiment parce que je pense qu'elle est indispensable parce qu'il y a eu des films autour de ça, il y a eu des documentaires et là la série, il y a entre autres Kad Merad qui joue l'avocat de la famille Oussekine qui est extrêmement bon, le gamin qui joue Malik Oussekine et toute sa famille sont des gens incroyables. Je vais vous spoiler parce que ça va vous motiver à regarder. À la fin, il y a les membres de la famille de Malik qui sont là à l'image, je ne dirais pas sous quelle forme. C'est extrêmement émouvant. Moi, j'étais petit, mais j'étais déjà dans les manifestations à dire que c'était un scandale et une honte. C'est quelque chose qui a bouleversé la société française, mais qui malheureusement ne l'a pas fait changer. Hein. Je ne vais pas vous parler de 2023 et 2024. Mais Oussekine, c'est indispensable. C'est quand la fiction est aussi forte, si ce n'est plus qu'un documentaire. Donc Oussekine, c'est à voir sur Disney+, et c'est ma recommandation dans ma semaine spéciale Disney.
Ouais.
Après vous regardez un petit Pocahontas tranquillement, il n'y a pas de problème.
Oui.
Mais voilà, dans les créations originales, voilà ce que je vous recommande. Les trucs à voir, parce qu'on n'en a qu'un à voir cette semaine, et tu l'attends avec impatience. Et je vais te dire la vérité, moi aussi.
C'est vrai.
Ah oui, vraiment. Tu vas parler d'autres références d'un programme culte de M6 et que j'avais adoré. Ça s'appelle L'école a remonté le temps. Et c'est dès ce lundi, je crois, j'ai peur de me tromper.
Oui, lundi 21h10 sur M6.
Lundi 21h10 sur M6, décidément, après les Baudins, les lundis soirs de M6 nous enchantent. Et ça s'appelle L'école a remonté le temps. Nico, pourquoi tu nous recommandes de voir ce format?
Alors, d'abord parce que j'ai un souvenir ému, et tu l'as dit, d'une télé-réalité qui s'appelait Le Pensionnat de Chavagne.
Magnifique.
Et Le Pensionnat de Sarlat. En fait, ils avaient immergé des gamins dans l'école des années 50 où ils étaient confrontés à des professeurs, à des surveillants qui jouaient le jeu à fond. On se souvient notamment du surveillant en chef.
Mon Dieu.
Monsieur Navarron. Ah, on savait pas trop si c'était fake ou si c'était vrai, mais ça participait au succès du programme. C'était incroyable. Là, on est sur un truc un peu similaire. Donc, on est 20 ans après. Et M6, je cite, va proposer une expérience sociologique destinée à plonger des collégiens et des professeurs. Alors là, il y a quatre époques différentes.
Ouais.
1880, 1930, 50 et 80.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va voir l'évolution comme ça de l'école pendant, pendant toutes ces années.
Ouais.
On ne sait pas vraiment si ça va tourner au documentaire ou à la télé-réalité. Moi, c'est ma seule interrogation pour l'instant. J'ai hâte de voir ça pour savoir où on va aller. Ça peut être un mix des deux aussi. Ça peut être, c'est pas inintéressant.
Alors, moi, j'ai vu un sujet sur C Médiatique. Je sais pas si tu l'as vu.
Ah non, je l'ai pas vu.
Alors, ce qui m'a semblé intéressant, et c'est pour ça que je vais te suivre pour courir voir ce format, c'est que c'est tous, ils jouent tous leur propre rôle dans des périodes différentes, donc 1880, etc. C'est-à-dire que c'est des vrais professeurs. C'est un vrai directeur d'école, c'est des vrais encadrants et c'est des vrais élèves. Et ils ont tous révisé, tous travaillé. C'est-à-dire que les enseignants ont été se coller au programme de 1880, 1930, 1950, 80. Et donc, c'est une certaine forme de télé-réalité, comme dirait Alexia Laroche-Joubert. voilà, une certaine forme de télé-réalité. Elle me fatigue. je te jure, une forme de... Voilà. Non mais je te jure, je suis en train de m'énerver. Non mais en gros,
faut qu'on vous dise un truc à ceux qui nous écoutent. On enregistre les émissions,
on est
les unes derrière les autres.
On est
fatigué. Et plus ça va, plus il est énervé, plus il est énervé.
Ouais, c'est
je pense que.
On va s'arrêter
on
là.
On va le perdre.
Alors, merci à tous. À lundi.
À la semaine prochaine.
Non, mais en gros, moi, ça m'intéresse beaucoup l'école à remonter le temps pour la raison que je viens de décrire avant mon emballement. Alexia, tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Pardonne-moi. Mais surtout, rappelle-moi, car j'ai besoin d'argent.
C'est trop tard.
C'est trop tard. Je ne parlerai pas de cette soirée chez Canal Jimmy il y a 25
ans.
Non,
oulala, non.
En tout cas, ce que je trouve, c'est une forme de télé-réalité dans le sens où, alors, moi, je dirais que c'est plus un docu-réalité, voilà. C'est plus un docu-réalité avec un rythmique, une rythmique très brillante à la M6 pour ne pas perdre les gens au milieu, je leur souhaite. Mais c'est plus vraiment... Chacun a pris son rôle, mais c'est son vrai rôle. Le directeur d'école, il a été voir dans les cahiers comment on dirigeait une école à l'époque, avec les coups de baguette, les coups de règle sur les doigts, le bonnet d'âne et toutes les conneries. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est une expérience sociologique aussi. Bon, pour qu'on arrête toujours de dire que c'était mieux avant, parce que pas tout. Hein. Et ça m'intéresse pour cette raison-là, parce qu'ils ont vécu immergés pendant tout un été. Ça a duré 3 semaines, je crois.
Ouais.
Sans vouloir dire de conneries, le tournage. Et donc, c'est une expérience sociologique et c'est un docu du réel, moi, je dirais. C'est assez drôle. Et puis, c'est toujours intéressant parce qu'on va dire, ouais, c'est du vu, déjà vu. Mais non, parce que les générations changent et que moi, j'ai connu l'école des années 80. Donc, je pourrais te dire, ah, c'est nul, n'importe quoi. Ou alors l'inverse. ou ma mère te dira, c'était mieux quand c'était comme ça. Voilà, en tout cas, tout le monde aura son opinion. C'est ça qui est rigolo. Et c'est ça qui dissocie le fait de s'appuyer sur le passé pour aller de l'avant ou pour se dire, ah ouais, c'est comme une des raisons pour lesquelles ce documentaire est utile. L'uniforme à l'école n'a jamais été imposé. Jamais en France. Jamais.
Et d'ailleurs, Dieu merci, ce n'est pas sur C8.
Et non.
C'est bien sur M6, du coup, on peut leur faire confiance. Ça ne va pas tourner à la glorification des vieilles méthodes d'enseignement ou de la tenue unique. En plus, on est en plein débat. Mm-hmm. Je pense que M6 fera correctement son boulot.
Non, mais pour le coup, voilà, exactement. Oui.
Voilà, je pense que ça va être un joli programme, à mon avis. Et je pense, à mon avis, que c'est carrément le pensionnat de Chavagne qu'ils ont amélioré avec la télé d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on va retrouver l'esprit de ce truc.
Oui et non, parce que Chavagne, c'était quand même pas mal mis en fiction, entre guillemets, enfin...
Pas les gamins.
Oui, mais tout le reste de l'incarnation, c'était de l'incarnation. C'était, voilà. Que là, c'est des enseignants. Donc, les enseignants.
Pas des acteurs.
C'est pas. Là, ouais, voilà. Donc, moi, je pense que, comme tu l'as dit, et puis vraiment, une des raisons, c'est ça. C'est. Ma femme, l'autre jour, me disait, mais tiens, mais je me rappelle que moi, on nous filait des blouses et tout, genre dans le courant des années 70 et tout. Je dis, mais oui, mais on te filait une blouse pour la porter quand t'allais te salir ou te tacher ou des arts plastiques ou de l'EMT, comme on appelait ça. Mais il n'y a jamais eu d'uniforme obligatoire dans les écoles publiques françaises. Jamais. Et ça va au moins permettre ça. Et M6 va leur dire, les gars, voilà, venez, on parle des choses essentielles. Je pense ouais. que dans l'état dans lequel est l'éducation nationale, comme plein de nos services, ça devrait permettre un débat vraiment sur l'organisation globale de l'école. Est-ce que la transmission de savoir doit se ouais. faire de la même manière? Est-ce que c'est vraiment très malin de dire « Bon, bah, l'IA existe, on va s'en servir un peu pour les cours parce que c'est quand même
il fait
fun. »
Il fait des voix, ouais, vous avez remarqué. Ouais. Il fait des voix.
J'imite très mal notre Premier ministre parce que, bon, comme je le connais personnellement, je suis un peu embêté.
Ah merde.
Oui,
pardon.
Je vais publier une photo de lui et moi très prochainement, mais j'ai très peur. Voilà, ouais. Je connais Gabriel Attal d'une autre vie. À peu près 2016, je l'ai rencontré en 2016, je crois.
Ah oui.
Dans une sale histoire de garde à vue. Non, je plaisante. Le mec, il veut vraiment arrêter les podcasts.
Mais c'est le dernier, de toute façon, aujourd'hui. Il faut se dise la vérité.
Ce truc-là, sociologiquement, il va permettre de remettre, le clocher au milieu du village, de revoir réellement ce qu'était l'éducation. Et s'il peut permettre à la société française d'aujourd'hui d'en prendre le meilleur et de retirer le pire de façon objective dans la réalité de ce qui se passait. Parce que ce qui est intéressant, c'est le ressenti des générations actuelles vis-à-vis du mode d'éducation qui a été transmis à l'époque. C'est ça qui compte. Est-ce que le gamin de 2023, il va se dire « Ah, mais en 1880, la méthode pour apprendre les mathématiques était meilleure. Bon, bah pourquoi pas. Par contre... nous faire chanter, c'était ridicule. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, bien sûr.
Dans ce sens-là, sociologique me semble plutôt pertinent.
C'est très pertinent. Et c'est hyper créatif, comme à chaque fois sur M6. Moi, ça m'épate.
Ils ont une force pour informer tout en divertissant qui m'inspire l'admiration, M6. J'ai beaucoup de mal à écrire un format pour M6, comme tu le sais, toi. Mais c'est pas que je n'aime pas, c'est qu'il y a une vraie patte, un vrai savoir-faire, une vraie mécanique. Et voilà quoi. On va parler de mon dernier coup de cœur pour la spéciale Disney.
Allez, je me resserre un whisky.
Ouais, s'il te plaît. Alors, le pitch, c'est une famille ordinaire qui est confrontée à une terrible épreuve qui va percuter la vie de chacun de ses membres. Et pourtant, le quotidien continue avec son lot de problèmes, de joie et de peine. Non sans espoir et humour, les catastrophes rendent les gens plus humains, c'est-à-dire pas toujours meilleurs. Voilà le pitch de cette série avec Virginie Efira, Sarah Giraudot, Nicole Garcia. Ils sont tous bons, Bernard Lecoq. Ils sont Médine Ebou. Ils sont tous magnifiques. C'est l'histoire d'une famille qui apprend qu'un des enfants, petit enfant, qui a 11-12 ans, est atteinte d'un cancer plutôt lourd.
Oh.
Voilà, comme ça. Merci à tous. Fin du podcast.
Allez, remets-moi un Bloody Mary, là.
Donc, il y a 4 ou 6 épisodes. On a fait en 2 fois avec ma femme, comme c'était l'aime, parce que c'était trop dur à porter en une seule fois. Ça s'appelle Tout va bien, si j'ai oublié de le redire. C'est très bien écrit, très bien joué. Allez jusqu'à la fin, parce que la fin n'est pas celle que vous pensez tous et que vous penserez jusqu'aux dernières minutes du dernier épisode. Donc, gardez votre sang-froid. Et pareil, si je vous recommande ça, c'est que c'est une création originale, française, sur Disney+, qu'elle est extrêmement bien écrite, bien interprétée. Et la conclusion de cette spéciale Disney, c'est que Disney, qui pourtant est une culture américaine très puritaine, est OK pour affronter la vie comme elle vient. Que ce soit sur Lambert contre Lambert, ou Sekin, ou Tout va bien, à un moment donné, OK, Mickey, on lui met un slip parce que sinon c'est trop vulgaire. Mais il y a aussi le cancer, il y a aussi les flics qui tabassent, il y a aussi des combats sur la vie, sur la mort. Et c'est vraiment la richesse de l'offre Disney. Elle est un peu perdue parce que ce qui fait vendre Disney, c'est les Disney classiques, c'est les Marvel, c'est toutes ces choses-là. Moi, je suis tout le temps sur Disney pour bouffer du Simpson saison par saison. Je ne m'en lasse jamais, je lance ça. Mais là, tout va bien. C'est la série coup de cœur dans cette compilation de mes 3 sélections de la semaine. Je vous recommande vraiment d'aller visionner ça. Alors vraiment, pour le coup, la dernière, autant les autres, la dernière, là, tout va bien. Faut vraiment faut pas faire ça un vendredi soir quand le chef de service t'a envie de le tuer, et pas un dimanche soir avant de reprendre le boulot non plus. Faut trouver le bon moment. Pardonnez-moi. Et donc voilà, c'est ma dernière recommandation pour Disney. Donc je résume, Lambert contre Lambert au nom de Vincent, Oussekin, un crime français, et tout va bien. C'est ma sélection Disney+. Et puis toi, Bah oui. Cherry on the Cake, un documentaire de France Télé. Pour une fois, c'est pas moi qui vends du France Télé dans Vue et à Voir, c'est toi. Donc, tu as vu Hiver 54, l'abbé Pierre et l'insurrection de la bonté, qui est un documentaire dont tu vas tout nous dire maintenant.
Oui, parce que c'est vraiment une période qui me passionne. On commémore les 70 ans de l'appel de l'hiver 54 de l'abbé Pierre. C'est un appel qu'il a passé le jour où il a découvert une femme morte gelée en plein Paris.
Absolument.
Il a débarqué en colère sur RTL et RTL a dit OK pour passer un appel. Mmh. Et son appel, il est resté célèbre. C'était mes amis au secours. Mmh. Une femme vient de mourir, etc.
C'est terrible.
Et c'est des mots forts qui a permis de récolter des dons, des couvertures, etc. Et ce documentaire, en fait, il zoome vraiment sur ce moment. Alors, bien sûr, on parle de la vie de l'abbé Pierre après, mais on axe vraiment sur ce moment qui est clé dans l'histoire de la France. C'est quelque chose d'ailleurs qui résonne encore aujourd'hui. Quand vous allez voir ce qui se passait à l'époque, vous allez vous dire, mais vous allez vous interroger sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. C'est un très beau programme, hyper poignant. Surtout, ce qui est génial, c'est que c'est rempli d'archives. Et archive après archive, on se rend compte à quel point l'abbé Pierre était un gars hyper charismatique et qui pouvait emporter les foules et qui pouvait soulever des montagnes avec des mots, quoi. Il était absolument prodigieux. Moi, je l'écoute des heures, quoi. Il était incroyable. Et dans ce documentaire, on l'entend beaucoup, beaucoup parler. Voyez ce truc. Ça dure une heure, une petite heure.
Je vais aller le voir.
Et c'est franchement beau, quoi.
Moi, je me
c'est
rappellerai toute beau. Ma vie quand j'étais minot de. Et c'est pour ça, quand tu dis que c'était un mec charismatique, Coluche, qui n'était pas moins, comme un enfant quand il lui ramène le surplus de pognon des
magnifique.
Restaurants du cœur. C'est un moment, c'est un des plus beaux moments de télévision. C'est un truc vraiment tellement pur, tellement sain. Alors, il y a les matraquages des caméras et des photographes à ce moment-là. Le regard des deux, l'attitude des deux, et puis après les témoignages des gens qui ont vécu ce moment et qui étaient proches d'eux, pour vous dire à quel point, pour les deux, ce moment a compté. Et chacun y allait avec des œufs avec l'autre, mais voilà quoi. C'est-à-dire que on est tous tellement différents et tellement multiples, mais quand c'est l'humanité qui nous relie, c'est incroyable. Donc rien que pour ces raisons-là, moi, l'abbé Pierre, je vais aller regarder ce documentaire sur France
Télé. Et c'est plein d'archives, et on voit aussi l'archive où il y a Charlie Chaplin, qui lui aussi vient porter son chèque à l'abbé Pierre, et il a cette phrase, Charlie Chaplin, qui est énorme, il dit « Je ne donne pas, je rends ». Et cette phrase, elle reste vraiment culte, et on voit toutes ces archives-là, super documentaire, voyez ce truc sur France Télé.
Et d'ailleurs, je vous en parlerai plus tard, Charlie Chaplin, c'est marrant que t'en parles. Quel parcours admirable aussi, mais ça sera l'occasion d'un autre sujet. Je vais finir pour ma partie dans le petit truc en plus, ça fait des semaines que j'en parle, c'est The Offer, c'est sorti maintenant il y a un an sur Paramount+. Je vais faire bref. The Offer, c'est l'histoire vraie du mec qui a décidé de produire pour la Paramount, Le Parrain, la saga du Parrain, et il faut la regarder, tout simplement, parce que c'est une fiction documentaire, c'est-à-dire que c'est tellement proche de ce qui s'est passé au Cordeau. Après, les mises en fiction, c'est les moments qui manquent dans le récit fait par les témoins. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien joué, bien interprété. Ça reflète tellement l'époque. Ça montre à quel point ce mec a pris des dangers monstrueux, ne serait-ce que pour produire un film. Ça remet à sa place le vrai sujet qui était la mafia, vraiment, à l'époque. Et les risques qu'il a pris pour produire ce film, les galères qu'il a eues avec l'auteur du livre pour l'adapter en film, c'est à mourir de rire. Il y a des situations complètement ubuesques et complètement folles. The Offer, il n'y a qu'une seule et unique saison, et c'est pas mal. Je ne sais pas si deux saisons auraient valu la peine. Il y a 10 épisodes. Chaque épisode est une pépite de surprise et de réalisme. Voilà, c'est des reflets sociétaux aussi, c'est ce que j'aime bien. C'est que c'est le reflet de la société américaine, du cinéma américain de l'époque, dans tout ce qu'il avait de meilleur et de pire. Je vous rassure, tout est dit. C'est pas comme en France où il faut attendre 36 ans pour savoir que Benoît Jacquot est un gros porc et que Jacques Doyon est un dégueulasse. Là, c'est dit dans The Offer quand il y a des comportements inappropriés. C'est montré, c'est explicité. Et surtout, parce que moi je suis quand même d'une ancienne génération et on a tendance à dire « Ouais, mais c'était l'époque qui voulait ça. » Mais non. Il y a des trucs, qui n'ont jamais été OK. Qu'on ait été victime de ça, c'est vrai. Que l'époque le permettait, c'est faux. C'est ceux qui faisaient l'époque qui décidaient que c'était OK. Et là, The Offer, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans les chantages de la mafia, dans les engagements pris, enfin, il y a des trucs fous. Quand tu sais comment le film a pu être monté en faisant des promesses à des bandits, Et tant mieux qu'il les ait faites quelque part, parce que Le Parrain est une œuvre majeure quand même du cinéma. Mais voilà, The Offer, c'est mon petit truc en plus. C'est le bonus que je vous recommande cette semaine. Vous retrouvez les fiches de tous ces programmes sur bienvu.tv au moment où le podcast sort. Et toi aussi, tu as un petit bonus que j'aime aussi beaucoup qui s'appelle Hirocorp.
Je fais rapide. C'est une série qui est pas toute jeune.
Non.
C'est une série qui a quelques années, mais c'est un peu le principe du truc en plus, c'est de vous diriger vers des trucs que vous n'avez pas forcément vus. C'est tout simplement une des meilleures séries fantastiques françaises. Alors vous allez me dire, la série française ne fait pas beaucoup dans le fantastique.
Bah, oui.
Et pourtant là, si vous aimez le genre, foncez. C'est une série de Simon Astier et on retrouve totalement la patte de la famille Astier. Les dialogues sont ciselés, c'est absurde. Il y a vraiment du Kaamelott dedans. Sauf qu'on parle toujours de Kaamelott, mais on parle quasiment jamais de Hirocorp.
Ouais,
et pourtant, c'est génial. C'est l'histoire de super-héros qui sont vieillissants, qui ont perdu, pour la plupart, presque tous leurs pouvoirs, qui sont un peu ridicules, qui sont à la campagne un peu loin de tout, et qui se retrouvent menacés par un super méchant joué par l'excellentissime Christian Bugeaud, qui est le gueux des visiteurs.
Ouais.
Il y a 4 saisons.
Ouais.
Toutes les saisons ne se valent pas. Mais franchement, je vous conseille de mettre le nez là-dedans si vous aimez les séries fantastiques, parce que c'est génial. Ça a été multidiffusé à la télé.
C'est vrai.
Comédie, France 4 et Game One l'a même diffusé.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est dispo gratos sur la plateforme France TV. C'est très prisé dans la communauté geek, mais malheureusement, le grand public ne connaît pas forcément cette série. Et pourtant, elle est très, très chouette, très drôle. Allez-y, courez voir ça.
Si vous aimez Le Visiteur du Futur, de François Descraques, que ce soit la web série ou le film, c'est dans la même patte, dans la même veine. C'est vraiment un truc à recommander, vraiment. Et il y a beaucoup de gens encore qui ne la connaissent pas, malheureusement. Et nous, on est là pour vous parler de ça aussi, parce que voilà, la fiction française, elle est sous toutes ses formes, et peu importe le contenant, c'est le contenu qui prime. Elle a eu du mal à décoller parce que les réseaux n'étaient pas aussi exposés. Et ensuite, il y a eu des diffusions sur des chaînes de télévision thématiques qui ont aussi une petite audience. Qu'elle soit disponible gratos sur France Télé, faut foncer sans hésitation. Voilà pour le 3e épisode de Vu et à voir. On vous rappelle qu'on vous demande de vous abonner à votre podcast favori pour avoir les alertes, qu'on est là toutes les semaines et qu'on aimerait aussi, sur les pages des articles en question de Bien Vu, que vous mettiez des petits commentaires genre « Jean-Pat, arrête avec Disney+, parce que là, le Lexomil, il n'y en a plus » ou des choses comme ça. Votre avis compte et c'est important pour nous pour la suite des formats. Je vous rappelle que Vu et Avoir, c'est sous le label Bien Vu. Sous le label Bien Vu, on reviendra, pour ceux qui me connaissent, sur les histoires de la télé de Jean-Pat et de mon parcours à la télévision, que ce soit sur Canal, C2Point, Game One, les chaînes du groupe AB et plein d'autres aventures. Et on aura aussi des entretiens, des interviews avec des créateurs, des artistes. On va s'intéresser aussi aux gens qui font Internet aujourd'hui et qui ont décidé de créer des formats en toute autonomie, et on a décidé d'en soutenir certains et d'en faire des interviews. Ça va arriver très bientôt pour les soutenir, parce que si vous avez des bloqueurs de pub ou si ils sont pas exposés par d'autres influenceurs, ils ont beaucoup de mal à vivre de ça. Et pourtant, c'est des gens passionnés, un peu comme la team d'Hirocorp au départ qui fait ça dans son côté. On est aussi là pour valoriser ces gens-là. Donc, on en parlera très prochainement sur Bien Vu. Mon bon Nicolas.
Oui.
Merci à toi d'avoir été là.
Merci
cette
à toi surtout. Merci beaucoup.
Merci encore. On se dit à la semaine prochaine. Bon programme, qu'il soit à la télé, en plateforme ou ailleurs. Profitez et n'hésitez pas à nous faire des petits retours, parce qu'on aime bien parler tous les deux, mais on aime encore mieux avoir votre avis. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. Salut.
Salut, salut.
C'était Bien Vu, les programmes à voir cette semaine. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous le pouvez, soutenez-nous avec un don sur le site bienvu.tv/don, D-O-N. Bien Vu est un site indépendant édité par l'Association de promotion du patrimoine de la télé, qui s'appelle la Télé de Jean-Pat. Nos rédacteurs travaillent bénévolement, mais nous avons besoin de financer la partie technique de notre plateforme. Alors merci à vous si vous le pouvez, et à très vite sur bienvu.tv.